Chapitre 6, mercredi 12 avril, 15h20.
Puis-je vous apporter quelque chose pour vous soulager ?
Demanda James.
Un 6 coups de calibre 40 pour me faire sauter la cervelle !
Répondit Sam Clemens.
Ou, puisque je suis un lâche patenté, un quelconque poison indolore au goût de jus de citron.
Rien d'autre ?
James était assis sur une chaise près de la fenêtre, à 1 mètre du lit où était couché Clemens en chemise de nuit. Il y avait des médicaments et des verres à demi pleins sur la table de chevet et une pile de journaux en désordre sur l'unique autre chaise.
L'un des médecins qui m'a examiné assure que c'est seulement une mauvaise grippe et me prédit depuis 11 jours une guérison pour le lendemain,
expliqua Clemens entre deux quintes de toux.
L'autre médecin affirme que c'est une pneumonie et qu'à mon âge avancé, 58 ans, je devrais régler ma succession et commencer à prendre mes mesures pour le cercueil. J'ai bonne envie de jeter ces deux charlatans dans une arène pour voir lequel on sort vivant.
James sourit.
Mais racontez-moi plutôt ce qui vous amène à l'hôtel Great Northern, monsieur Holmes et vous,
ajouta Clemens. Il reposa son cigare à l'odeur atroce, le temps de prendre quelques gorgées d'un liquide coloré, dont le goût lui arracha une grimace.
« C'est Holmes qui l'a choisi, » répondit James.
La chambre de Clemens, à un coin de l'immeuble, disposait de 3 fenêtres en arrondi que James avait ouvertes pour laisser entrer l'air frais du centre-ville de Chicago. L'hôtel se trouvait au croisement de Jackson Boulevard et de D-Bond Street, et c'était à peu près tout ce qu'il connaissait de la géographie de la ville.
Il a entendu un employé demander à un groom de monter une carafe d'eau avec du citron à votre chambre, reprit-il. C'est comme ça que j'ai su que vous étiez là. Ça m'a surpris. Quand j'ai appris que vous étiez souffrant, j'ai voulu venir prendre de vos nouvelles.
C'est fort aimable,
dit Clemens, s'interrompant pour tousser encore une fois. Une profonde toux grasse qui incita James à se pencher un peu plus en arrière.
J'ai l'intention de repartir à New York demain, monsieur James, même si je dois y aller les pieds devant. Je vais peut-être devoir vous demander de porter mon cercueil.
Clemens but encore un peu du liquide coloré. Puis il prit la petite bouteille et remplit de nouveau son verre.
S'agit-il d'un sirop pour la toux ? Demanda James.
Plus ou moins,
répondit Clemens en avalant une autre bonne rasade.
C'est du laudanum. De l'opium liquide, un cadeau des dieux. Mon deuxième médecin n'hésite pas à m'en prescrire des tonneaux. Jusqu'ici, c'est le seul remède qui a calmé ma toux.
De mieux en mieux, songea James. Holmes s'injecte la nouvelle drogue héroïque tous les jours et Clemens, Mark Twain, est en train de devenir dépendant au laudanum.
Avez-vous réglé votre affaire ici à Chicago ? S'enquit-il. Lorsque nous étions à Hartford, vous nous aviez dit que vous aviez des gens à voir.
Clemens prit un air dégoûté.
J'ai fait le tour des investisseurs susceptibles d'être intéressés par la machine à composer de Page. Mais ils sont mesquins, James, tellement mesquins. Ils insistent pour voir une machine en état de fonctionnement. Ils sont tellement obnubilés par leur quête de bénéfices.
Et Page n'a pas de modèle à montrer ?
Il me répète presque toutes les semaines qu'il en a en parfait état de marche. Mais quand je me précipite pour aller le voir, soit la machine tombe en panne, soit Page a décidé de la démonter pour la perfectionner d'une mystérieuse manière. Il se trouve à Chicago pour ouvrir une 2e usine de production, alors que la première n'a pas encore craché le moindre exemplaire qui tourne plus de 2 minutes d'affilée.
Avez-vous vu Monsieur Page depuis que vous êtes ici ?
Clemens but encore une bonne quantité de laudanum avant de remplir son verre.
Il s'est montré merveilleusement prévenant. Il est passé me voir au moins 6 fois, en restant chaque fois des heures à mon chevet.
Et ? Demanda James après un silence durant lequel Clemens regarda dans le vide.
Vous vous souvenez que je vous ai dit que Page aurait pu convaincre un poisson de sortir de l'eau pour aller faire quelques pas avec lui?
Oui.
Eh bien, cette fois, il a convaincu le poisson de sortir de l'eau, de faire quelques pas avec lui, de grimper un arbre et de caqueter comme un perroquet.
Ne sachant que répondre, James attendit la suite, en s'efforçant de respirer l'air frais du dehors plutôt que celui de la chambre, empuanti par le cigare bon marché de Clemens.
Je suis allé exiger, non pas réclamer, ni demander gentiment, mais bien exiger que Page me rembourse immédiatement les 30 000 derniers dollars que j'avais mis dans son projet. J'en ai besoin. Je les avais empruntés à ma petite entreprise d'édition pour les investir dans la machine à composer, et les circonstances m'obligent à récupérer cet investissement pour sauver ma maison d'édition. Je suis donc venu exiger 30 000 dollars sur les 190 000 que j'avais déversés dans le puits sans fond de Page.
Vous a-t-il remboursé ?
J'ai fini par lui signer un nouveau chèque de 50 000 dollars.
Grommela Clemens.
Pour qu'il puisse procéder à ses dernières petites améliorations avant que la machine à composer ne révolutionne le monde de l'imprimerie et ne fasse de moi un millionnaire.
Clemens fut pris d'une violente quinte de toux. Il reprit son souffle et but un peu de laudanum avant de poursuivre.
J'y ai laissé plus que des écailles cette fois. Livy va me tuer.
J'espère que ça finira par rapporter,
dit James qui n'avait jamais investi dans quoi que ce soit d'autre que son talent.
Au fait, où est votre ami Sherlock Holmes ces jours-ci ?
Demanda Clemens.
Aujourd'hui, il est allé rencontrer différentes personnes à la Ville Blanche.
Avez-vous déjà vu l'exposition, James ?
Pas encore.
Ah, la Ville Blanche. Encore une chose dans cette vie que je ne verrai jamais.
Soupira Clemens. Puis, sans préambule, il demanda.
Holmes croit-il toujours qu'il est peut-être un personnage de fiction ?
D'abord pris au dépourvu, James finit par répondre.
Je crois que oui.
Il a peut-être raison.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
J'ai lu les nouvelles du Strand et les novellas, et Sherlock Holmes m'est apparu comme un personnage particulièrement peu réaliste. Ses aventures m'ont paru très artificielles.
À New York, vous vous le rappelez peut-être, Holmes nous a expliqué qu'il n'était pas très satisfait de la présentation que fait Watson de lui et de son art de la déduction. Les histoires sont peut-être véridiques, mais écrites par un esprit médiocre.
Moi, j'ai réfléchi ces dernières semaines. Je doute qu'il existe un Dr. Watson. C'est ce Conan Doyle qui a créé un narrateur imaginaire pour raconter les histoires imaginaires d'un détective imaginaire.
Holmes prétend que Conan Doyle est l'agent et l'éditeur de son ami Watson. Le docteur John Watson, qui n'aime pas la publicité, permettrait à Doyle de le représenter.
Mais s'il s'avère que Holmes est véritablement un personnage de fiction, et que ce grand complot criminel n'est qu'une fable, une illusion,
qu'en est-il alors de vous et moi, monsieur James ?
Comment ça ? Demanda James qui savait très bien où Clemens l'emmenait.
Ça signifierait que nous sommes nous aussi des personnages de fiction dans cette affaire,
conclut Clemens, le regard menaçant sous ses sourcils en désordre.
Vous avez été choisi pour être son Sancho Panza, ou peut-être son Boswell, et moi pour ajouter une note comique.
Jamais je ne serai son Boswell.
Avez-vous déjà réfléchi, James, aux relations que vous entretenez avec les personnages que vous avez créés ?
Je ne suis pas sûr de comprendre,
mentit James.
Au fait que pour eux, vous êtes Dieu, tout comme je suis le Dieu du petit monde de mes personnages de fiction. Vous les créez ? Vous les mettez à l'épreuve ? Vous décidez des émotions qu'ils ressentent et quand il est l'heure pour eux de mourir ? Je l'ai dit, nous sommes, pour eux, des dieux.
James secoua la tête.
Mes personnages ont une certaine vie autonome.
Vraiment ?
S'étonna Clemens avant d'être secoué par une nouvelle quinte de toux.
Vous voulez dire qu'en ce moment même, Isabelle Archer est en train de prendre le thé en Angleterre ou en Europe continentale ?
Non, mais que le personnage d'Isabelle possède des profondeurs que je n'ai pas explorées.
Ce sont des galimatias d'écrivains !
Répliqua Clemens.
Nous adorons prétendre que nos personnages ont des vies indépendantes. Mais c'est faux ! Vous le savez aussi bien que moi, James. Nous les déplaçons comme des marionnettes au guignol. Avez-vous lu le moindre de mes livres, monsieur ?
Je n'ai pas encore eu ce plaisir,
répondit James, surpris par la question. Les écrivains ne demandaient pas à d'autres écrivains leur opinion sur leurs œuvres. Ça ne se faisait pas. Clemens rit.
Eh bien, j'ai essayé de lire les vôtres. Déchiffrer votre prose, James, c'est comme traduire de l'allemand médiéval. On a 42 wagons de marchandises chargés de subordonnés, poussés par un petit groupe laborieux de verbes moteurs rejetés à la fin de la phrase. Lire vos livres, c'est comme écouter un homme perché sur une caisse en train de débattre avec lui-même et qui se coupe la parole toutes les deux secondes pour se contredire.
James eut un petit sourire. Mon frère William serait d'accord avec vous.
Mais tout de même, en ce qui concerne Isabelle Archer et quelques-uns de vos autres personnages...
Clemens laissa la fin de sa phrase en suspens. Il se tourna pour lancer à James un regard farouche.
Savez-vous pourquoi Isabelle Archer a pris cette décision idiote et autodestructrice à la fin du roman? Était-ce votre intention dès le début? Ou votre personnage a-t-il acquis une certaine indépendance et pris sa décision désastreuse toute seule?
James leva les mains, paumes en l'air. Il n'avait pas du tout l'intention de discuter d'Isabelle Archer ni d'aucun d'autre de ses personnages ou de ses livres avec cet Américain à l'esprit embrumé par le laudanum.
Soit on entend la voix de nos personnages dans notre tête, soit on n'entend pas,
poursuivit Clemens, se parlant à lui-même.
Vous vous souvenez peut-être que j'ai publié, il y a environ 5 ans, un livre intitulé « Les aventures de Huckleberry Finn ».
Je m'en souviens.
Durant des mois... Des années en réalité, puisque j'ai laissé le livre de côté pendant longtemps. J'ai entendu la voix de Huck dans ma tête, aussi distinctement que celle de ma chère Livy m'appelant pour le dîner. Huck m'accompagnait quand j'allais me coucher le soir et m'attendait quand je me réveillais le matin. Et puis un jour, près de ce qui aurait dû être la fin de l'histoire, quand ils descendent du radeau pour la dernière fois et que Jim, l'ami esclave de Huck, a été capturé, Huck m'a abandonné. Il s'est fait la malle. Je n'entendais plus sa voix. Je ne pouvais plus voir à travers ses yeux. Je n'étais plus qu'un homme qui couchait les mots sur le papier.
Qu'avez-vous fait? Demanda James, plus intéressé qu'il ne voulait le montrer par le sujet et la réponse.
Je suis allé chercher Tom Sawyer dans son livre, et j'ai fait de Huck le personnage secondaire superficiel qu'il était dans le bouquin de Tom Sawyer. Et c'est ainsi que j'ai laissé le plus important livre que j'ai jamais écrit, se transformer en un autre de ces récits pour la jeunesse. Tout n'est que jeu, coïncidence et fin heureuse avec Tom, qui se retrouvait à prendre toutes les décisions, alors qu'il n'aurait même pas dû figurer dans ce roman.
Moi, ce genre de situation est tout à fait regrettable, dit gentiment James. Et je suis sûr que cela nous arrive à tous dans l'un ou l'autre de nos romans. Clemens secoua la tête.
« Avez-vous lu Robert Elsmer ?»«
J'ai déjà entendu ce titre, mais je n'ai pas eu l'occasion de le lire. »«
Le bouquin de Madame Humphrey Ward a fait sensation et créé pas mal de raffus il y a environ 5 ans. »« Elle y prenait un christianisme fondé sur des considérations sociales et sur l'assistance au prochain plutôt que sur les écritures et la théologie. »« Elle s'est fait beaucoup de farouches ennemis. »
James attendit.
« Bref !»
poursuivit Clemens après avoir toussé et expectoré.
« J'ai noté une phrase de ce long et parfois lugubre ouvrage parce qu'elle n'est pas sans rapport avec le sujet dont nous discutons. Madame Ward a écrit, je m'en souviens parfaitement, « Je ne peux pas concevoir un dieu, ordonnateur suprême, qui conspirerait contre sa création. »
Le propos ne me paraît pas très radical.
Mais pour le monde et les personnages que nous créons, nous sommes dieux, James. Et nous n'arrêtons pas de conspirer contre eux. Nous les tuons, nous les malmenons et nous les blessons. Nous leur faisons perdre leurs espoirs et leurs êtres chers. Nous conspirons quotidiennement contre nos personnages. Mais dans le livre de Huck Finn, je n'ai pas eu cette force. J'ai perdu la voix de Huck, puis j'ai manqué de courage. À moins que ça ne se soit passé dans l'autre sens. J'aimais tellement Huckleberry Finn que je n'ai pas réussi à comploter contre lui et contre le reste de ma création comme je l'aurais dû. Si la voix de Huck était restée en moi, si j'avais eu le courage de l'écouter, Jim aurait été capturé et vendu comme esclave sous les yeux de son ami et malgré tous les efforts de ce dernier pour l'empêcher. Ou au moins j'aurais eu la décence de tuer Jim et Huck, au lieu de faire intervenir Tom Sawyer dans l'histoire pour qu'elle ait une fin de livre pour enfants.
Clemens avait craché les derniers mots. Quel rapport avec la question de savoir si Sherlock Holmes est un personnage de fiction? Demanda James d'un ton brusque. Il détestait les écrivains qui se lamentaient sur leur sort. Clemens rit jusqu'à ce qu'il se remette à tousser.
Vous ne comprenez pas. Vous et moi ne sommes que des personnages très secondaires dans cette histoire consacrée au grand détective. Notre petite vie et notre sort importent peu au dieu écrivain, qui que soit ce salaud.
Avez-vous une idée de qui il pourrait s'agir? J'y ai réfléchi. Conan Doyle ne ferait jamais intervenir des contemporains vivants dans ces histoires. Il ne citerait sûrement pas leur vrai nom et ne les rendrait pas reconnaissables. Holmes m'a raconté que Watson avait dû déguiser le prince de Galles en roi de Bohême dans une nouvelle.
« Non, ce n'est pas forcément Conan Doyle »,
dit Clemens, le menton collé à la poitrine alors qu'il versait la fin du laudanum dans son verre.
« Plutôt un esprit et un talent inférieur au vôtre et au mien. Et peut-être même, c'est dire, à ceux d'Arthur Conan Doyle. Et qui sait si l'histoire n'a pas été écrite à 30, 50, voire 100 ans de distance ?»
Au moins, ça signifierait que nous serions encore lus dans 30, 50 ou 100 ans,
constata James, s'efforçant de prendre un ton léger malgré son cœur lourd. Il y eut un long silence, seulement rompu par les bruits de la rue, 15 étages plus bas, et par la respiration rauque et laborieuse de Samuel Clemens.
Si nous ne sommes que des constructions fictionnelles, ajoutées pour tenir compagnie à la construction fictionnelle qu'est Sherlock Holmes, que faisons-nous à présent ?
Finit par demander James. Clemens rit une fois encore.
« Je repars demain. Je serai probablement trop mal en point pour regarder la parade de grands navires prévue ce week-end dans le port de New York. Mais je donnerai cher pour voir ça. Non, monsieur. Si le dieu écrivain de cette histoire, un écrivaillon à coup sûr, veut éliminer ce Sam Clemens, il devra le faire hors scène, comme Shakespeare a tué Falstaff. »
« Moi aussi, il faut que je m'en aille, » songea James, « que je regagne mon autonomie, que je reprenne possession de moi-même. »«
Quels sont vos projets pour demain ?»
demanda Clemens.
« Holmes m'a dit qu'il voulait m'emmener faire une excursion en bateau pour visiter la ville blanche. »«
Dans ce cas, profitez bien de ce que je ne verrai jamais, »
dit Clemens.
« Je passerai prendre de vos nouvelles en rentrant de ce tour en bateau. » Et voir si vous avez besoin de quoi que ce soit.
Vous pourriez demander au concierge, le petit qui a un bec de lièvre, de dire au médecin de l'hôtel que j'ai besoin d'un nouveau flacon de laudanum. Et d'une paille.
James hocha la tête.
Quant à passer me voir demain,
ajouta Sam Clemens,
c'est inutile. D'une manière ou d'une autre, je serai sorti de cette histoire.